Maintenant, j'arrive au cœur du sujet. Si vous me dites, qu'est-ce qui vous fait dire que le Christ est ressuscité alors qu'il y a un tas de gens qui disent le contraire? Quels sont les pilotis de votre foi au Christ ressuscité? Bien, pour avoir une foi solide, il faut trois pieds. Une expérience, des signes, une histoire. J'espère que vous retiendrez au moins cela de mon enseignement. Pour avoir une foi solide, il faut les trois. Une seule chose ne suffit pas. Il faut, je dis d'abord, d'une façon, je ne peux pas tout dire en même temps, je ne dis pas que c'est par là qu'on commence, mais pour avoir une foi solide, il faut pouvoir dire un jour ou l'autre, comme Claudel après sa conversion, « Et tu devins tout à coup quelqu'un pour moi. » J'espère que vous avez tous plus ou moins fait cette expérience que Jésus était quelqu'un de vivant, qu'il vous accompagnait. Alors cette expérience, elle se fait de 36 façons différentes, je devrais dire de 36 000 façons différentes, puisque dans une même famille, il n'y a pas deux enfants qui font la même expérience. Je lisais hier soir dans un journal qui traînait là, un article sur le fameux Lacan, le psychanalyste qui a révolutionné la psychanalyse française, qui est mort il y a 100 ans. Son frère était bénédictin à Hautecombe. Ça arrive très souvent dans une famille. Je pense à un de mes anciens élèves jésuites, grand savant, parlant couramment l'arabe, l'hébreu, etc. Grand savant, sympathique comme tout. Deux de ses frères appartenaient à la secte la plus stupide qui soit, la scientologie. Et ses parents, des parents comme ça. Quel mystère dans de famille. Je pense à un évêque de France qui a un frère intégriste. Alors que lui ne l'est pas du tout. Bon. Alors, cette expérience, on l'a fait d'une façon étonnante. Moi, je l'ai faite tout doucement, appartenant à une famille chrétienne, ayant pris l'habitude de prier tout jeune. Ça s'enracine sans doute dans mon inconscient. Je crois qu'à 5-6 ans, Jésus était déjà quelqu'un pour moi. Quand j'ai fait ma première communion, c'était évident pour moi, Jésus était vivant et qu'il m'appelait à devenir prêtre. C'était évident. À 6 ans et demi. C'est de la chance. Hein. Mais je pense à un autre prêtre de mon diocèse, bien plus performant que moi, qui enthousiasme des jeunes, qui en a emmené je ne sais combien au dernier JMJ. Il est devenu prêtre en allant porter les valises de sa tante à Lourdes. « José, viens m'aider à porter mes valises, elles sont lourdes. Je te donnerai de l'argent de poche pour aller t'abuser en Espagne. » Que ne ferait un jeune pour aller s'abuser en Espagne? Donc il est parti porter les valises de sa tante, seulement il est resté un jour de trop à Lourdes. Le lendemain, il s'est retrouvé sur l'esplanade et il a vu le prêtre porter le Saint-Sacrement sur l'esplanade. Il s'est retrouvé à genoux devant le Saint-Sacrement. Il a réalisé que Jésus était vivant. Et dans l'instant, il savait qu'un jour, il demanderait à devenir prêtre pour aider les autres à faire la même expérience que lui. Sa maman, veuve, n'a pas communié le jour de l'ordination sacerdotale de son fils. Et elle est toujours aussi incroyante. Alors José, à quoi ça sert d'être curé? Il enthousiasme des dizaines et des dizaines de jeunes dans mon diocèse. La dernière fois qu'il jeudi saint, il y avait 300 jeunes du second cycle à participer à l'Eucharistie. Hein? Mais sa maman et ses frères et sœurs sont toujours incroyants. Il appartient à une famille totalement incroyante. C'est curieux, le bon Dieu. Hein? De temps en temps, il fait exprès de faire tomber la vocation sacerdotale sur quelqu'un qui ne s'y attend vraiment pas. Mais lui, il est persuadé qu'il doit sa vocation à la prière de parents qui voudraient bien avoir un fils prêtre et qui n'en auront jamais. Pour bien montrer que c'est un don de Dieu. Bon, en général, c'est plutôt dans les familles chrétiennes, mais pas toujours. Ça me plaît, moi. Ça vous plaît pas, moi. Hein? C'est la gratuité du don de Dieu. Bon, et combien d'autres comme cela? Donc, il y a une expérience incommunicable, et c'est dans ce sens-là qu'on ne peut pas enseigner la religion. C'est le problème de tous les parents chrétiens. Vous ne pouvez pas transmettre la foi à vos enfants, voulez-vous. Il faut qu'ils fassent l'expérience à leurs risques et périls. Je pense que vous pouvez leur enseigner des choses. Vous pouvez leur donner une éducation, si vous me demandez, je l'ai fait dans mon livre sur le mariage, comment donner une éducation. On peut dire des choses. Mais il y a quelque chose que vous ne pouvez pas donner, cette expérience. Vous le savez bien d'ailleurs, puisque vos enfants n'ont pas la même évolution spirituelle, alors que souvent, ils ont la même générosité. Parce qu'on peut, en quelque sorte faire beaucoup pour la générosité de ses enfants. On peut les éduquer de telle sorte qu'ils soient généreux, qu'ils aient cette valeur de générosité. Ce n'est pas encore la foi. C'est souvent la consolation d'ailleurs que j'entends. Vous savez, mes enfants ne vont plus à la messe, nos petits-enfants ne sont pas baptisés, mais ils vivent quand même un certain nombre de valeurs chrétiennes. Et c'est vrai, et c'est mieux, c'est bien. Ils n'ont pas tout perdu, mais ils n'ont plus la foi. Deuxièmement, il y a des signes. Comme Jésus est vivant, eh bien, il produit des signes, il produit des choses qui manifestent qu'il est vivant. Et vous savez à quel point, dans l'Évangile, nous voyons Jésus faire appel à ces signes pour attester sa divinité, sa messianité. Jésus n'a jamais dit « croyez-moi sur mes beaux yeux ». Il devait avoir un sacré regard. Malheureusement, il y a des catéchistes qui n'ont pas compris cela et qui font un contresens complet sur une parole d'Évangile qu'on écoute tous les ans, 8 jours après Pâques. Quand Jésus apparaît à Thomas, il lui dit « heureux ceux qui croiront sans avoir vu ». Et des catéchistes croient bien faire en disant « vous voyez les enfants ». La foi, c'est mieux quand on n'a pas besoin de signes, comme saint Thomas, qui veut voir et toucher. Ça, c'est un contresens complet sur l'Évangile. Ils vont même que ces catéchistes se taisent ce jour-là. Parce que là, vous enseignez une grave erreur. Et vous encouragez les enfants à penser que la foi, c'est dingue. On n'a pas besoin de signes. On croit comme ça. C'est ce qu'on appelle le fidéisme. J'y reviendrai beaucoup pendant ce week-end. L'Église a toujours condamné le fidéisme, cette erreur suivant laquelle on n'aurait pas besoin de raison pour croire. Pourquoi l'Église condamne le fidéisme? Parce que c'est contraire à l'Évangile. Jésus n'a jamais dit cela. Jésus a multiplié les signes tout au long de sa vie pour montrer qui il était. Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir de remettre les péchés, lève-toi, prends ton grabat et retourne chez toi. On a calculé dans l'Évangile, selon saint Marc, plus de la moitié des versets de saint Marc, en dehors de la Passion, sont consacrés à des miracles. Plus de la moitié des versets. Les miracles ont une grosse importance dans la vie chrétienne. Jésus en a fait tout au long de sa vie, et il a dit à la fin de sa vie, si je n'avais pas fait parmi eux les signes que j'ai faits, les Juifs seraient excusables de ne pas croire. Et Pascal, que j'aime tant, accordait beaucoup d'importance aux miracles dont avaient bénéficié sa petite nièce et filleule, la petite Marguerite Perrier, qui a été guérie miraculeusement dans la chapelle qui se trouve à l'entrée du boulevard Port-Royal, dans la maternité Baudeloc, qui est installée dans ce qui reste, dans les ruines de cette célèbre abbaye Port-Royal, qui était devenue janséniste, où la petite sœur de Pascal était devenue religieuse, et où la petite nièce, la fille de son autre sœur, a été guérie miraculeusement d'un bobo purulent à l'œil. Et tous ceux qui connaissent un peu Pascal savent que Pascal accordait tellement d'importance à ce miracle qu'il préparait tout un écrit à la fin de sa vie sur ce miracle de sa petite nièce. Rien que pour ça, c'est une preuve suffisante pour que Pascal n'a jamais dit que la foi était un pari. Bon, nous avons parmi nous, je lui demanderai de témoigner demain ou après-demain, la religieuse qui est là avec nous, elle a été magnifiquement guérie en 2 secondes. Le 8 décembre 89, un miracle spectaculaire, comme le Vatican en raffole. Elle vous expliquera avec sa simplicité habituelle, ça se fera en 5 minutes. Elle a été guérie en 2 minutes de problèmes qu'il avait fait aller sur le billard 19 fois. 19 fois les chirurgiens ont essayé de l'arranger, ça n'a rien fait, mais le bon Dieu en 2 minutes a tout arrangé. Non, pas 2 minutes, 2 secondes. Et des muscles qui n'avaient pas fonctionné pendant 5 ans pouvaient immédiatement monter les 3 étages et conduire la voiture. Ça, c'est un miracle comme ça. Vous voyez ça, le Vatican, il aime ça. Quand il y a un miracle comme ça pour Charles de Foucault, il sera tout de suite béatifié. Et cette religieuse que je connais depuis très longtemps, j'allais célébrer la messe de temps en temps. C'est elle qui m'a donné l'image du bon pasteur que je vous ai montré ce matin. Elle avait ça au-dessus de son lit d'infirme pour s'encourager à accepter son handicap. Mais jamais, en allant célébrer la messe dans sa chambre au bureau, je ne lui avais suggéré de prier pour sa guérison. Jamais elle n'avait prié pour sa guérison miraculeuse. Mais d'autres l'avaient fait. Il y a des gens qui prient pour être guéris, ils ne sont pas guéris. Il y a des gens qui ne prient pas pour être guéris, ils sont guéris. Puis il y a des gens qui prient pour être guéris, ils ne sont pas guéris. Mais ça me fait du bien, vous voyez. Alors je ne dis pas que ma foi est plus grande depuis le temps que je l'ai vue, parce que je connaissais d'autres cas. Seulement, justement, j'ai jamais dit au Seigneur, « Seigneur, je veux avoir un miracle à voir. » Parce que je fais tellement de conférences et tellement de sessions sur tout ça que je veux avoir mon miracle à raconter. Ça, c'est ressembler à Thomas. C'est ça que Jésus reproche à Thomas. Tu veux voir ton expérience. C'est bon pour une fois, Thomas. Hein, me voici. Mets tes doigts. C'est bon pour une fois. Heureux ceux qui croiront sans avoir vu par eux-mêmes. Vous savez qu'il ne faut pas traiter Dieu comme votre chien. Vous savez ça? Il y a des chrétiens qui traitent Dieu comme leur chien. Au pied! Obéis-moi! Guéris mon enfant! Ils ne disent même pas s'il te plaît. Non, le chrétien dit, Seigneur, si tu le veux, guéris mon enfant, s'il te plaît. Soyez poli avec Dieu. Ce n'est pas votre chien. C'est votre Dieu. Il y a une façon de parler à Dieu qui ne respecte pas sa transcendance. Donc on a besoin de signes. Alors les uns, ce seront des guérisons, ça se porte, c'est pas forcément à Lourdes, là c'était à Armentières. Je demandais donc à des élèves d'Armentières me demandaient, y a-t-il encore des miracles aujourd'hui? Je leur dis, c'est de l'autre côté de la rue. Ils ne connaissaient évidemment pas ce miracle qui s'était produit sur le bord du trottoir de l'autre côté, quoi. Hein? Seulement, vous voyez, il faut traverser la rue et aller voir ce qui se passe. Ce n'est pas forcément chez moi. Ça s'est produit dans l'institut familial d'Armentières et non pas dans l'institution Saint-Jude d'Armentières. Pourquoi? Hein, c'est comme si vous demandiez à un juif pourquoi Dieu a choisi le peuple juif pour être le peuple élu et non pas le peuple japonais. Dieu aurait pu choisir le peuple japonais. Hein, et donc Jésus leur a eu les yeux bridés. Et on aurait lu l'évangile en japonais pendant des siècles, jusqu'au moment où le concile Nagasaki II aurait permis la liturgie en français. C'est de l'histoire religieuse fiction. Entre parenthèses, vous savez, si vous demandez à un vrai juif pourquoi Dieu a choisi le peuple juif, sans doute parce qu'on est plus pécheurs que les autres. Ils connaissent leur Bible. Hein. La Bible ne cesse de dire du mal des juifs, espèce de peuple incirconcis de cœur, à la nuque raide. Oui, ils ne cessent de pécher. Ce sont des pécheurs d'un bout à l'autre de leur histoire. Donc, ils la connaissent. Sans doute parce qu'on est plus pécheurs que les autres. Ça, c'est un vrai juif. Un vrai rabbin juif, il vous dit ça. Ce n'est pas de l'orgueil. Ils sont fiers d'être le peuple élu, je les comprends. Bon, je ne parle pas des problèmes d'Israël et de la Palestine. C'est un tout autre problème. Un tout autre problème.